Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal.
Les titres de l'actualité.
Bruno Bayala.
Les réformes foncières au Burkina Faso, des associations de promoteurs immobiliers craignent une fermeture de leur entreprise. Tout en appuyant la concertation, elles souhaitent que le gouvernement lève le pied sur leur dossier qui souffre depuis 3 à 5 ans. En France, la vaccination sera obligatoire à partir du 15 septembre prochain pour les personnes âgées et le personnel soignant. Une des mesures prises par Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale célébrée ce mercredi 14 juillet. Et puis l'invité du jour est Seydi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel. Avec lui, les questions du bilan de l'opération Barkhane au Sahel. Bonsoir à tous et bienvenue. Suite à la désignation des commissaires de la Commission nationale électorale indépendante au Burkina Faso, des organisations, notamment l'opposition politique, ont récusé deux commissaires, un sujet qui a fait l'objet d'une conférence de presse hier mardi 13 juillet. Sur la question, le ministre Clément Sawadogo affirme qu'il n'y a vraiment pas à récuser un candidat dans le processus d'installation des membres du bureau de la nouvelle équipe de la CNU au profit du ministère en charge des questions électorales. Une réponse au chef de l'opposition politique qui, dans une lettre disqualifie Bonaventure Ouédraogo, choisi pour siéger vacant des manquements dans le processus d'installation. On en sait plus avec Asmaou Daou.
Du bruit autour du processus de mise en place de la future nouvelle équipe de la CENI. Eddy Kamboigo adresse une lettre au ministre en charge des questions électorales pour lui notifier que le chef de SAO, Dim Songdo Ouédraogo, est disqualifié pour siéger au nom de la société civile représentant l'autorité coutumière. L'homme est politiquement engagé. Un interdit prévu par les articles 5 et 10 souligne le chef de file de l'opposition politique dans sa lettre. Mais pour le ministre Clément Sawadogo, rien à signaler selon les textes en vigueur.
Nous, MATD, ministère tenu à la réserve et à la neutralité, nous ne rentrons pas dans ces questions-là. Donc, nous nous en tenons au fait que la loi dit que souverainement, chaque composante désigne son représentant. Il n'y a rien au passage qui dit qu'à un moment donné, quelqu'un peut remettre en cause ça. Nous avons tout simplement indiqué que nous sommes mal placés pour statuer sur cette plainte au regard des textes.
L'installation des membres de la CENI était prévue le lundi dernier, mais il aura lieu ce jeudi. Ce n'est pas pour donner suite à la demande de l'opposition qui exigeait un report pour se conformer au texte, mais pour donner plus de chances aux concertations entre acteurs.
On s'est dit, bon, même s'il n'y a pas un problème véritablement de droit qui se pose au maintien du vote, donnons toujours du temps aux acteurs, parce que c'est toujours la bonne règle. Nous sommes là aussi dans un rôle de facilitation de toutes les concertations entre les partis, au sein de la classe politique ou avec la société civile.
Le ministre de l'administration territoriale Clément Sawadogo a cité les articles 5, 7, 10, 11 du code électoral qui traite de l'élection à la Commission électorale nationale indépendante. Et ces articles traitent notamment des conditions de la composition du bureau et tout ce qui entoure l'élection des commissaires au sein de la CENI.
Merci à vous, Asmaou Daou, que nous retrouverons sous peu pour la revue de presse de ce mercredi 14 juillet. Et vous le savez, la France a annoncé le retrait de la force Barkhane au Sahel, mais elle reste pour lutter contre le terrorisme sous un autre modèle à travers la force Takuba. Pour Seydi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel, ce n'est pas surprenant que la France ait repensé sa coopération au vu des résultats peu satisfaisants obtenus.
Dès le départ, la mission était quasiment impossible parce que cette partie de territoire, c'est environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Et 8 ans après, aujourd'hui, on constate avec beaucoup d'objectivité que l'opération Barkhane n'a pas atteint ses objectifs. On peut même considérer que la situation au Sahel s'est presque dégradée depuis le début de Barkhane à aujourd'hui. Donc on peut estimer, sans jeter la pierre sur l'armée française ou sur l'ambition de la France, que Barkhane n'a pas donné en tout cas les résultats que les pays du Sahel et que la France elle-même entendait. Donc c'est pas surprenant que la France elle-même ait décidé de repenser Barkhane pour lui assurer une plus grande efficacité.
Seydi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel, est l'invité de la rédaction. Interview à suivre donc en fin de journal. L'association des promoteurs immobiliers du Burkina est en colère contre le ministère de tutelle, à savoir celui de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. La cause, la réforme sur la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso jugée inappropriée. Ils l'ont fait savoir ce mardi à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Les explications d'Abdoulkader Konaté.
La fameuse loi 057, la loi qualifiée de suicidaire, la loi qui divise, tout serait parti d'un atelier de relecture de la dite loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso du 31 mai au 5 juin dernier, entrepris par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Villes. Conviés, les promoteurs immobiliers se mettront à l'évidence selon leur dit que l'avant-projet de loi tel envisagé est inopportun et risque de causer la fermeture prochaine des sociétés immobilières. Roger Ninkiema, président de l'association des promoteurs immobiliers.
C'est l'État seul, à travers cet émargement, tel que nous avons cité celui-ci, son acteur et le ministère de l'Urbanisme, dans le crochet, qui seront habilités à mobiliser les terres des propriétaires terriens, ou bien les terres du domaine national. Les propriétaires terriens, lorsqu'ils ne disposeront pas de titres permanents, des titres fonciers, des APFR, ne pourront plus céder leurs terres un promoteur immobilier.
Nonobstant cela, les conférenciers appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités afin de prêter une oreille attentive à leurs préoccupations.
Nous voulons tout simplement que nos différents projets qui dorment dans les tiroirs, qu'on puisse faire l'inventaire de ces projets, qu'on puisse les traiter en bonne et due forme.
L'État burkinabé veut-il voter une loi en catimini pour exclure définitivement les sociétés immobilières des questions foncières? La question demeure posée.
Et pendant ce temps, c'est le ministre des Infrastructures qui effectuait une visite de chantier hier mardi 13 juillet, parti de Guiba au centre-sud, à Tinkodogo au centre-est. Eric Obogma et sa délégation ont pu constater de visu l'évolution des travaux de construction et des bitumages de 72 km de la RN17 Guiba-Garango. Les travaux qui sont à un taux d'exécution de 27% à 6 mois du délai initial. Aussi, d'autres chantiers dont la ville de Tinkodogo ont été visités par le ministre Eric Obogma. Les explications de Joël Sauré.
Lancés en janvier 2020, les travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 17 Guiba-Garango sont à un taux d'exécution de 27,33%. Plusieurs difficultés peuvent expliquer ce retard selon les techniciens sur le terrain et des dispositions sont prises pour être à la hauteur des attentes dans un délai raisonnable. Tinao Mahaman Sane, chef de mission de contrôle.
Il faut mentionner que depuis l'avènement du coronavirus, pratiquement à la date de mars-avril 2020, cette pandémie a eu pour conséquence une incidence sur l'aménée du personnel et l'aménée du matériel de l'entreprise. Donc, quand on parle de l'aménée du personnel et du matériel de l'entreprise, ça sous-entend tous les engins de terrassement, les engins de concassage et y compris dans certains cas, le déploiement du personnel d'encadrement et d'exécution du côté de l'entreprise. Mais il faut reconnaître que d'ici le 10 janvier 2022, par rapport à ces 72 km dont j'ai eu à vous signaler, ça serait un peu difficile. On en connaîtra un peu de retard.
C'est un ministre des Infrastructures confiant qui a visité les installations de l'entreprise, les centrales de concassage et d'enrobé en cette matinée du mardi 13 juillet 2021. Il a rassuré que tout est mis en œuvre pour mettre fin au calvaire des usagers de cette route dont les travaux coûtent plus de 28 milliards de francs CFA financés par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Eric Bougma, ministre des Infrastructures.
Nous avons constaté, je le disais tantôt, que les travaux avancent actuellement très bien. Il faut noter d'ailleurs que la saison des pluies n'est pas l'occasion pour l'entreprise de suspendre les travaux puisque le délai comprend aussi la saison des pluies. Nous avons visité les installations de l'entreprise, les centrales de concassage et d'enrobé et nous pouvons dire que tout est fin prêt pour que cette route-là reçoive très bientôt le béton bitumineux.
En plus des travaux annexes prévus dans le projet, instruction a été donnée par le ministre pour une évaluation de la réhabilitation du tronçon Garango-Tinkodogo en vue d'une bonne connexion à la RN16 allant jusqu'à la frontière du Togo. Dans la ville de Tinkodogo, la délégation conduite par le ministre Eric Bougma a pu visiter d'autres chantiers dont la voirie pavée.
Et dans l'objectif de permettre aux acteurs du secteur privé de bien se préparer pour profiter des avantages de la zone de libre-échange continental, la capitale burkinabé abrite depuis lundi et jusqu'à demain jeudi un cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé 2021. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Régis Bonny.
L'accord de la zone de libre-échange continental de l'Afrique, CILECAF, défis et opportunités pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé, c'est sous ce thème que se tient le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, CODESP 2021. Plus qu'un thème, cela constitue une forte interpellation pour le monde des affaires et les pouvoirs publics burkinabés. Tout en saluant la dynamique de dialogue État-secteur privé, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat affirme que le plus important est le côté permanent du dialogue. Haruna Kabore.
Nous sommes donc dans l'ère de la zone de libre-échange continentale et il faut bien s'armer, se préparer pour être compétitif, pour proposer des produits de qualité, pour profiter donc de ce vaste marché. Nous avons déjà une stratégie nationale. Il est bon que les discussions ici permettent au secteur privé de mieux se préparer pour profiter de ce marché parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être à la traîne.
Trouver des mécanismes favorables pour permettre la dynamisation du secteur privé, telle est l'une des raisons du CODESP, laisse entendre Simone Zundi, président de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso.
Le secteur privé, comme on le dit, c'est le moteur de la croissance, c'est le moteur du développement et il faut nécessairement comprendre les points particuliers de blocage pour pouvoir apporter les amendements nécessaires et pouvoir améliorer la rentabilité de l'activité.
Le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé est à sa quatrième année d'existence. Il se tient jusqu'au 15 juillet 2021. En rappel, le présent cadre de concertation État-secteur privé a été instauré depuis octobre 2018.
Régis Bonny, on reste avec vous pour parler de la journée nationale de l'intelligence économique, une journée qui a fermé ses portes également lundi dernier à Ouagadougou. Placée sous le thème « Rôle de l'intelligence économique dans la stratégie de développement de l'État et des entreprises », cette journée s'inscrit dans le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé.
L'intelligence économique est l'ensemble des activités de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. Le Burkina Faso y concède un regard particulier pour être mieux compétitif dans le marché mondial. Cette année, ce sont environ 70 participants qui ont pris part à cette journée nationale de l'intelligence économique. Haruna Kabore, ministre de l'Industrie et de l'Artisanat.
L'intelligence économique est aujourd'hui une solution, une réponse majeure pour permettre donc de réunir les informations stratégiques nécessaires pour alimenter tout dispositif donc de construction, développement donc de politique publique dans notre pays, mais aussi pour permettre donc aux entreprises de mieux organiser, structurer leur gouvernance pour à la fois accroître leur part de marché dans un monde devenu de plus en plus compétitif.
L'intelligence économique est une priorité du président du FASO et la Chambre de commerce, elle aussi, la met en exergue pour améliorer le rendement du secteur privé. Omer Ouedraogo, président de la commission mérite et intelligence économique.
Pour le Burkina Faso, nous croyons que l'on s'aligne sur le culturel. Parce que les premiers exposants ont bien parlé qu'effectivement, il faut déjà que nous aimons consommer ce que nous produisons. Et que si nous consommons ce que nous produisons, nous allons produire ce que nous consommons. Et ça, c'est des mots qui datent depuis 1984.
L'objectif de l'intelligence économique est d'assurer la protection de l'organisation de l'entreprise. Plusieurs heures durant, les participants ont échangé autour de plusieurs thématiques en vue de développer des stratégies pour le développement de notre économie.
La France célèbre aujourd'hui, mercredi, sa fête nationale et à l'occasion, le chef de l'État annonce notamment le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août prochain. Emmanuel Macron assure que le pays dispose des stocks de matériel suffisants et les capacités de test pour faire face à une éventuelle seconde vague de l'épidémie et ce, sans avoir recours à un confinement général.
Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont, pour le moment, reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français.
Sur le plan économique, le président français promet un plan de relance axé sur l'emploi et la jeunesse. Il annonce notamment la mise en place de 300 000 contrats d'insertion pour les jeunes diplômés et un dispositif d'exonération de charges.
La revue de presse.
Mercredi 14 juillet, la revue de presse nous est proposée par Asmaou Dao.
Le quotidien parle d'impact de la Covid. Se lit en titre « Réouverture des frontières ». Vaccination Covid-19, faire d'une pierre deux coups. Dans son développement est écrit, l'engouement pour la vaccination contre la Covid-19 n'est pas au rendez-vous. Le ministre de la Santé, Charles Maïwi Traogo, est donc obligé de faire le tour des autorités coutumières religieuses pour qu'elles sensibilisent encore plus la population pour la vaccination. Le journal fait remarquer, dans presque tous les pays de l'espace UOMOA et CEDEAO, on entend parler de moins en moins de cette pandémie, preuve qu'elle a connu un net recul. Sa conclusion est que l'ouverture des frontières et l'exigence de la vaccination pour pouvoir les traverser de part et d'autre seront donc faire d'une pierre deux coups. Le quotidien d'État revient sur l'affaire Norbert Zongo en titre, se lit « Un sursis de deux semaines ». Le journal émet ensuite des interrogations. Le Conseil d'État va-t-il enfin autoriser l'extradition de l'acteur clé du dossier Norbert Zongo ou va-t-il se plier au desiderata de la défense de l'incriminé ? Sidoya s'insurge sur la défense, il écrit « C'est encore dans ce même pays au système carcéral dit désastreux qu'un prisonnier, un officier supérieur de l'armée qui avait des soucis de santé a été évacué en France pour des soins appropriés. D'où viennent donc les raisons qui tendent à justifier que le pays des hommes intègres ne peut pas garantir un procès équitable pour les inculpés dans le dossier Norbert Zongo ? Quelle que soit la décision du Conseil d'État français, le peuple burkinabé saura encore patienter pour connaître le dénouement de ce feuilleton judiciaire, conclut le journal. Hors de chez nous, la condamnation de Jacob Zuma, ancien président sud-africain, est diversement abordée. Aujourd'hui au Faso qui titre « Émeute en Afrique du Sud pour Zuma ou éternuement anti-Covid-19 » mentionne-t-il dans ses colonnes. Il ne faut pas oublier que le pays a été frappé durement par le Covid-19 et ses variantes qui ont obligé les Sud-Africains à se confiner l'estomac et le porte-monnaie. L'occasion faisant le larron, les émeutes consécutives à l'emprisonnement de Zuma n'ont-elles pas servi aussi de passerelle pour certains Sud-Africains de passer leur nez ou de satisfaire quelques fins? Le journal termine par un questionnement. La justice va-t-elle lâcher du lest ou restera-t-elle ferme pour montrer qu'être ancien président n'est en rien une couverture contre une procédure judiciaire? De même que l'observateur Palga qui s'interroge, la justice va-t-elle maintenir l'ancien président sous les liens de la détention au risque de jeter de l'huile sur le feu ou plutôt va-t-elle sacrifier le droit sur l'autel de la paix sociale? That is question. Et le journal d'opiner qu'en attendant la réponse à cette question, il faut bien regretter l'attitude intolérable des Zuma Boys qui ne font pas du tout honneur à leur pays et à ses institutions. Et le pays est d'avis avec son confrère aujourd'hui au Faso au titre Le Journal. L'Afrique du Sud n'a pas besoin de ça. Si Jacob Zuma a des déboires judiciaires aujourd'hui, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Force doit rester à la loi. Si Zuma mérite d'être relaxé, qu'il le soit. Mais s'il mérite aussi sa condamnation de 15 mois, qu'il soit maintenu dans les liens de la détention, conclut le doyen des quotidiens.
L'invité du jour.
L'invité du jour. L'invité du jour est Seydik Abba, journaliste, écrivain, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel. Avec lui, il est essentiellement question du bilan de l'opération Barkhane au Sahel. Interrogé par Brigitte Yoda, il explique pourquoi après 8 ans de lutte contre le terrorisme, les objectifs de Barkhane n'ont pas été atteints et ce qu'il faut faire pour recadrer le tir.
Seydik Abba, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, que pensez-vous de l'opération Barkhane?
L'opération Barkhane, comme on sait, est la continuation de l'opération Serval. Serval ayant été lancée en janvier 2013 exactement pour stopper l'avancée djihadiste dans le nord du Mali, leur avancée vers le sud à partir du nord. Serval a accompli sa mission avec beaucoup d'efficacité et de réussite, disons, puisque les groupes terroristes ont presque été tous chassés de la partie nord du Mali. Et à la fin de Serval, la France a décidé de lancer l'opération Barkhane, qui avait un autre mandat, puisque son mandat s'étendait au-delà du Mali. Et l'ensemble du Sahel avait pour ambition de neutraliser, d'anéantir la menace terroriste. Dès le départ, la mission était quasiment impossible, parce que cette partie du territoire, c'est environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Et 8 ans après, aujourd'hui, on constate avec beaucoup d'objectivité que l'opération Barkhane n'a pas atteint ses objectifs. On peut même considérer que la situation au Sahel s'est presque dégradée depuis le début de Barkhane à aujourd'hui. Donc on peut estimer, sans jeter la pierre sur l'armée française ou sur l'ambition de la France, que Barkhane n'a pas donné en tout cas les résultats que les pays du Sahel et que la France elle-même entendait. Donc c'est pas surprenant que la France elle-même ait décidé de repenser Barkhane pour lui assurer une plus grande efficacité.
Justement, la France a décidé de repenser Barkhane sous un autre modèle, dans le format d'appui aux forces Takuba et aux forces nationales. Pourquoi ce repli tactique selon vous? Est-ce que la menace a changé?
Non, la menace n'a pas changé. Mais le résultat n'ayant pas été atteint, il était tout à fait normal de changer de stratégie, puisque le paradigme qui a été fait jusqu'ici, Barkhane en avant avec les forces armées nationales à côté ou derrière pratiquement, ce scénario n'a pas marché. Maintenant, avec Takuba, on va passer vers un autre paradigme où les armées nationales vont combattre avec les forces européennes, Takuba côte à côte. Ce qui, de mon point de vue, peut favoriser un transfert d'expérience. Ces armées européennes ayant beaucoup d'expérience, ayant beaucoup d'expertise en matière de formation et ayant beaucoup même de moyens, le fait qu'elles combattent à côté des armées du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Mali et du Tchad va permettre un transfert d'expérience. Et si on met tout ça ensemble, ça peut donner peut-être des résultats beaucoup plus intéressants que le résultat obtenu par Barkhane.
Par rapport à cette lutte contre le terrorisme, le président français a dit qu'il faut occuper l'espace, renforcer la présence de l'État, mais on ne parle pas du processus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver dans un tel contexte?
Oui, un des enseignements de la lutte contre le terrorisme depuis le lancement de Barkhane à aujourd'hui, c'est que la solution du tout sécuritaire, du tout militaire, avec augmentation des moyens, avec acquisition de nouveaux matériels, n'a pas suffi. Donc il faut, à côté de ça, accompagner avec le développement, accompagner avec une nouvelle gouvernance. Depuis le sommet de Biarritz en 2020, l'Union européenne et le G7 ont dit qu'ils vont accompagner les pays à assurer une présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Il y a des expériences qui ont commencé. Certains pays ont des administrations mobiles, c'est-à-dire que dans un village, il y a l'ensemble des services de l'État qui viennent comme ça, dans un bus ou dans un moyen de locomotion, pour assurer l'État civil, délivrer des actes de naissance, rendre justice, faire des opérations qui assurent la présence de l'État. Et ça doit être fait à la fois en aidant l'État central à s'installer, mais aussi en aidant les populations locales à choisir leurs représentants. On peut avoir plus de communes rurales dans les pays pour que l'État soit présent, plus de services décentralisés de l'État, les eaux et forêts, la garde nationale, la police, l'école, etc., etc., pour que le territoire soit occupé.
Alors, le président français a également parlé de l'extrême pauvreté qui pousse certaines populations à s'enrôler dans les groupes terroristes. On sait que les États africains ont une part de responsabilité, mais est-ce à dire que la France, ou devrons-nous comprendre qu'elle n'a pas de responsabilité dans tout cela?
En matière de développement, les premiers responsables sont les États, mais la communauté internationale aussi, la France faisant partie de la communauté internationale, a un devoir d'accompagner les États. Aujourd'hui, le fait de laisser des pays consacrer 15% à 20% de leurs dépenses annuelles à la lutte contre le terrorisme, je pense que la communauté internationale doit être tenue pour responsable de la pauvreté de ces pays, parce que ces pays, faute de soutien suffisant pour lutter contre le terrorisme, sont obligés de prendre sur leurs ressources. Et quand ils prennent sur leurs ressources, c'est au détriment du secteur de la santé, c'est au détriment du secteur de l'éducation, c'est au détriment de la formation professionnelle. Et qui dit paupérisation dit aussi possibilité pour les groupes djihadistes de recruter des jeunes. Et si on veut donc tarir la possibilité de recrutement, il faut aussi engager des questions de développement.
Revenons à la sécurité. Comment est-ce que vous appréciez la stratégie de la France qui consiste à ramener le front antiterroriste au sud au lieu du nord, quand on sait que c'est de là que viennent les djihadistes?
Les djihadistes ont commencé à s'installer par le nord, sur la frontière avec l'Algérie, à Kidal, à Tissalé, à Tombouctou, à Rho, dans le nord. La menace est descendue plus au sud, dans la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina. Il y a une présence terroriste, même Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui était avant dans le nord est descendu vers le sud. Donc la menace aujourd'hui, il ne s'agit pas de désarmer le nord pour le sud, il s'agit d'avoir un juste équilibre. À mon avis, la meilleure stratégie, ce n'est pas de désarmer le nord au profit du sud, mais c'est de consolider le nord et d'avoir aussi des moyens renforcés pour le sud.
Siedi Kaba, merci.
Je vous en prie.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore connectés. Le journal revient à 12h40 avec Alain Alain. Très bon après-midi à tous et à chacun.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.